Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Bonsoir toi qui écoutes la radio sur Lyon ou sur internet d'ailleurs. Il est 22h, c'est l'heure de la causerie comme presque tous les dimanches et ce soir dans les studios nous avons Clara la technique.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons également Fab.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Et puis ben voilà, le tour de l'équipe est fait. On espère que vous vous portez bien.
Peut-être qu'ils écoutent aussi la radio sur internet à Lyon.
C'est fou ça.
C'est fou hein.
Oh là là. Et on peut comme ça?
Un peu.
Ah ouais, c'est fou, ouais. Incroyable. On en découvre tous les jours, n'est-ce pas?
Tout à fait.
C'est à ça que sert la causerie.
entre autres,
évidemment.
Occuper aussi les dimanches soirs des gens qui s'ennuient. Enfin, voilà, on est un peu là pour tout, quoi.
Oui, on est des bouche-trous, mais c'est pas grave, ça nous plaît bien.
Cette phrase était étrange.
Et n'engage que moi. Eh bien, je crois qu'on va commencer tout de suite. Et c'est Fab qui va nous causer réarmement ou réaction, ou peut-être même réarmement de la réaction.
Ah, il y a un peu de tout ça.
Il y a un peu de tout ça. Hein.
En fait, au cas où vous ayez vécu dans une grotte ces derniers temps, vous n'avez peut-être pas vu qu'il y avait eu une grosse conférence de presse. Voilà, donc ça y est, le petit père de la nation a parlé. Hein. Macron a donc donné ses caps pour l'avenir. Et autant le dire, l'avenir semble être en fait dans notre dos, hein, ou plutôt un retour au passé. Si certains y voient un retour de la France, j'ai mis le bon ton. Un retour de la France, plus comme ça.
Là, on y est bien.
Voilà. Personnellement, moi, j'y vois que de la réaction et un virage conservateur enfin assumé. Oui. Parce que c'est peut-être ce qui est, entre guillemets, positif, c'est qu'il assume enfin son côté conservateur. Oui, parce que Macron, il a toujours été un conservateur de droite, libéral économique, affidé au patronat. Ceux qui en doutaient. Oubliez d'ailleurs que son premier acte en tant que président a été de détruire 70 ans de conquête sociale dans le monde du travail. C'est quand même bien pratique. Hein, surtout, toujours au nom évidemment de la modernité. Hein, mais affirmer qu'on est moderne, c'est pas forcément l'être, hein, c'est juste l'affirmer, c'est juste faire de l'affichage. C'est un peu comme la jeunesse, ce n'est qu'un mot.
Voilà. C'est de la communication et
la communication.
Ça,
il est fort.
Ça, on ne veut pas leur enlever que cette nouvelle génération de politicards, ils savent faire. Sont meilleurs, je trouve, que les plus anciens.
C'est marrant parce que c'est un peu.
Meilleurs.
Finalement, les
plus. Quand on voit les dernières aventures du ministère de l'Éducation, je ne suis pas sûr. Mais ils savent mieux manier certains outils et la rhétorique, je pense qu'ils sont encore meilleurs. Quand même.
Ça, c'est un peu la start-up nation entre les mains de gens très réactionnaires. Donc là, en fait, on y est dans un moment assez lunaire, hein, parce que pour ceux qui l'ont vu, moi, je me suis retapé des extraits. C'est, lunaire, c'est le mot, quoi, hein, d'une conférence de presse calibrée. En monarque, hein, avec un président qui est assis au-dessus des autres. Il essaye de faire du De Gaulle, mais il fait en même temps presque du Louis XIV. C'est très étrange.
Moi, je me suis demandé si ça faisait pas presque patron d'entreprise.
Oui, il y avait un côté
tu
aussi.
Tu vois,
comme
un
ça.
Gros patron avec tous les autres à côté. Vraiment, il y avait un côté comme ça.
En tout cas, c'était très dérangeant. Macron, il a donc donné ses vérités et ses attentes. Oui, parce que c'est lui qui l'a dit, ça. Je donne mes vérités et mes attentes. Déjà, le melon du bonhomme. Et on peut dire que l'on comprend mieux hein, comment, au niveau européen, finalement, la France est de plus en plus souvent aux côtés de l'Italie de Meloni et de la Hongrie de Viktor Orban, parce que le fond idéologique du macronisme de 2024 n'étant pas si éloigné, finalement, que cela des positions des néo-fascistes européens. Même si c'est subtilement amené, le virage conservateur et réactionnaire, lui, il est bien là, et on peut dire qu'il a été pris en épingle. Hein. Donc voilà. Donc réarmement, hein, on en parlait, donc ce mot quand même, le choix du mot hein, qui doit conduire les 4 prochaines années, quand même, n'est pas anodin. D'abord, c'est un mot guerrier, le réarmement, empreint de toute l'idéologie viriliste et militariste de ces derniers siècles. Hein. Dans l'histoire, ceux qui utilisent la notion de réarmement, soit ils fomentent une guerre, soit l'envie d'être maintenu au pouvoir coûte que coûte, soit les deux. Voilà, c'est au choix. C'est rarement, en fait, un mot qui est employé dans les démocraties de façon positive. Dans l'histoire. C'est plutôt des gens qui disent bah là, voilà, on va faire la guerre. Donc c'est un vocable hein, qui appartient au départ quand même à l'extrême droite de l'échiquier politique, et ce depuis toujours. Et cela se confirme quand dans son discours d'ouverture, hein, quand même oui, parce que je vous explique, il y avait une conférence de presse. Ailleurs dans le monde, quand il y a une conférence de presse, il n'y a pas de propos liminaire. En France, quand il y a une conférence de presse, ah non, il y a d'abord un propos liminaire, c'est-à-dire 20 minutes de Macron. Et je me les suis tapé. Et laissez-moi vous dire
c'est courageux.
Et ben laissez-moi vous dire que
voilà. Ah, au moins.
Ouais, bah disons que il manquait que truc derrière. C'était un monsieur qui disait le président de la Troisième République va s'adresser à la nation française. Voilà, bref, vraiment on était à ce niveau-là, quoi. Donc Macron, il balance tranquillement hein, que ce réarmement sera là pour que la France reste la France. Alors, c'est un vieux slogan quand même de l'extrême droite hein, et des nationalistes, hein, pour que la France reste la France. Il suffit de voir que c'était le slogan d'Éric Zemmour de la dernière présidentielle. Oui, parce que Éric Zemmour est un fasciste, hein, donc voilà. Donc du coup, bon, bah voilà, Macron sent que le pays a quand même basculé à droite, voire très à droite, et donc il accompagne le mouvement pour mieux garantir à lui et à ses troupes de rester au pouvoir. Ouais, parce que c'est ça hein, qui est derrière.
Ce qui est fort dans la rhétorique quand même, c'est de dire qu'il fait tout pour contrer le voilà. RN, tout en adoptant le vocabulaire et une partie des idées du RN.
C'est au prix, ouais.
C'est, il y a quelque chose qui m'échappe.
Bah, c'est parce qu'on a mis un barrage, mais en éponge. Alors forcément ça marche moins bien, c'est-à-dire qu'il absorbe les idées
oui.
au lieu de les repousser.
Oui,
c'est un peu, c'est un peu.
Et quand t'appuies dessus, ça les recrache.
Voilà,
quoi.
C'est un peu le problème.
Ouais, ça, c'est un barrage en éponge.
Voilà, la mise Pontex.
Belle image.
Bah oui. Donc en fait, clairement, hein, il veut rester au pouvoir au prix hein, de laisser gagner la haine et la réaction, hein, parce que clairement, on voit bien que c'est ça qui est derrière.
Après moi, le déluge.
Voilà, on sent d'ailleurs hein, qu'il faut dès maintenant s'inquiéter. Mais je le dis sincèrement. La loi dite immigration, hein, c'est une loi clairement d'extrême droite. Donc c'est, je vous rappelle qu'il y a eu aussi des manifestations aujourd'hui oui. contre cette loi, qu'il y en avait eu le 14, qu'il y en a d'autres prévues, mais cette fois en semaine, parce que quand même, il y a plein de gens qui disent est-ce que c'est utile de faire ça le dimanche, même si c'est visible, mais est-ce qu'il vaudrait pas mieux commencer à bloquer l'économie aussi, c'est-à-dire faire des grèves pour, voilà, peser, mais j'entends tous ces débats. Donc voilà. Et en fait, cette loi, elle est clairement d'extrême droite parce qu'elle va au-delà même de ce qu'espéraient les Républicains, qui sont déjà pas des gens très 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 à gauche, hein, et qui semble être finalement dicté par le RN, hein, alors quasi mot pour mot. Hein. Chaque mot sonne comme ceux d'une Mélanie ou d'un Orban, hein, il suffit de... Oui alors, pour les gens qui écoutent rarement la causerie, vous saurez qu'à la causerie, nous on n'est pas très pour les frontières, alors on s'intéresse un peu à ce qui se passe autour de nous, et en fait bah, on est tous allés lire un petit peu à l'époque comment Mélanie elle présentait l'immigration, comment Orban y présentait l'immigration. Bah, c'est pas compliqué, c'est comme la loi immigration.
Et voilà. Même, je pense que si on regarde du côté des politiques natalistes, en tout cas, c'est...
Attends, j'y viens après.
Ah, ok.
J'y viens juste après. Non, ne spoil pas.
Trop point d'info.
Oh là là. Donc, chaque explication, hein, chaque mot employé, chaque justification de pourquoi on est obligé de faire cette loi est exactement les mêmes que celles qui sont chez Orban et chez Meloni. Donc, c'est soit au nom des traditions françaises, hein, ah, les traditions françaises. Ça sonne comme une justification, en fait, finalement, de la haine en permanence. Hein. Alors, d'ailleurs, je tiens quand même à rappeler une chose. Là, je fais une petite insiste dans mon sujet. Le mot tradition, vous savez, parce que tout le monde nous rabaisse les oreilles. Alors, tradition ne veut pas dire que c'est vieux. Ça veut dire que c'est pratiqué. Et pratiqué par des gens. Alors, prenons un exemple. La tartiflette n'est pas une tradition française, elle date de 1965. Donc elle n'est pas millénaire, la tartiflette. Pourtant, c'est une tradition de l'hiver, vous voyez ? Parce qu'en fait, le mot tradition, vous pouvez le mettre un peu à toutes les sauces. Mmh. C'est juste qu'en fait, à un moment donné, vous faites un truc à un moment donné tous ensemble. Donc on peut demain tout à fait avoir la tradition d'arrêter d'être des abrutis. par exemple, ce serait pas mal. Je ferme ma parenthèse. Donc rien que dans cette loi n'est finalement à sauver, hein, parce qu'on va être très clair, toute la loi, vous la lisez, elle est orientée très 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 à droite, et finalement, on comprend pourquoi le Rassemblement National l'a votée. Bon, voilà. Rien d'autre dans cette loi n'a pour but que de trouver un bouc émissaire pour mieux cacher la vraie guerre que poursuit Macron avec ses, et avant lui ses prédécesseurs, hein, quand même, celle des riches contre les pauvres. Parce que finalement, hein, il vaut mieux montrer ceux qui arrivent, ceux qui n'ont pas tout à fait la bonne couleur de peau ou la bonne religion, pour dire c'est de leur faute à eux, c'est tellement plus facile. Celle qui permet finalement. Cette guerre, elle permet à une minorité de capter l'ultra-majorité des richesses de ce pays. Et ça tombe bien parce que Jean-Yves va vous en parler juste après. Celle qui rend finalement intouchables ceux qui se pensent puissants et qui pensent que les autres sont corvéables. Oui. Ah merci. Voilà, donc ça c'est aussi une réalité, c'est qu'elle arrive à un moment opportun, cette loi, au moment où on a besoin de détourner la colère sociale. Eh oui, donc pour détourner la colère sociale, autant la détourner sur les gens qu'ils sont minoritaires. C'est tellement plus facile comme ça. Voilà.
Oui, là aussi, hein, c'est une technique vieille comme le monde.
Ah
en
ouais.
fait.
Et puis pas de gauche. Hein.
Non, mais le problème, c'est quand même que ça fonctionne. C'est ça qui, moi, me...
Ah ben, c'est ça le problème, oui. Ça, on est d'accord. Le souci, c'est que ça fonctionne. On oui. est d'accord. Mais je parlerai un petit peu plus loin, mais c'est vrai que oui, c'est le vrai problème, c'est que ça fonctionne. Et le virage, en fait, vers une sorte de travail famille-patrie, oui, j'ai fait exprès de reprendre le slogan pétainiste, quasiment assumé, hein, quand même, hein, parce que si vous écoutez le discours de Macron, bah, il y a le travail, il y a la famille, il y a la patrie, hein, donc, voilà. C'est marrant, parce qu'il n'y a pas la solidarité, la fraternité, l'entraide, hein, donc, voilà, bizarrement. Quasiment, voilà, ça arrive au réarmement. Qui doit aller jusqu'à aller toucher le ventre des femmes. Ouais, parce qu'il ne faudrait pas déconner quand même. Allez, les feignasses, hein, faut faire des gosses pour la nation au nom de Dieu. Oui, non, ça, je pousse le curseur un peu. Pas tant que ça, en fait. Quand vous réécoutez vraiment, je sais pas, c'est tellement poussé. Il y a que au nom de Dieu qu'il a posé dire. Mais il faut faire des enfants pour la nation.
Oui, mais des fois, la patrie peut remplacer Dieu.
Ouais, tout à fait. Et pour la grandeur de la France. Parce que sachez, mesdames, hein, qu'à chaque enfant que vous pondez, vous faites un petit peu de bien à la grandeur de la France. Voilà. D'après Emmanuel Macron. Bon. C'est assez étrange, hein. Donc, l'utérus des femmes, les utérus des femmes, pardon, deviennent donc une affaire d'État. Hein, voilà. Et l'État qui s'arroge le droit de venir contester les choix des femmes de ne pas avoir d'enfants ou de ne vouloir en faire qu'un, par exemple. Bah, c'est quand même un petit peu inquiétant parce que dans l'histoire récente, on va dire dans les 100 dernières années, il n'y a pas 50 000 mouvements qui sont allés emmerder les femmes, hein, quand même, hein, qui ont voulu enlever le droit des femmes de jouir de leur corps, qui ont voulu qu'elles fassent des enfants pour la nation. Ça nous renvoie pas aux gens les plus ouverts de l'histoire de France, quand même. Hein. Et dans le même mouvement, hein, parce que quand même, faut déconner, on parle de lutter contre l'infertilité qui se serait installée. Alors, il y a quand même des spécialistes qui disent que c'est contestable, hein, parce que ça dépend de ce qu'on appelle infertilité, d'abord, voilà. Parce que il y a aussi une réalité, c'est qu'on fait des enfants de plus en plus tard, donc c'est simplement ce qu'on appelle l'infertilité par l'âge. Et comme ils disent, bah, c'est pas grave, voilà, c'est la vie, hein. Et puis, pour faire une petite remarque, l'un des choses qui m'a montré du doigt pour avoir une cause sur l'infertilité masculine, c'est le glyphosate. Et le pays qui a empêché que le glyphosate soit interdit en Europe, c'est la France. Mais tout se tient. Moi, donc on va lutter contre l'infertilité quand même. Donc vous savez, dans quoi on a quand même lu un tel programme, c'est-à-dire lutter contre l'infertilité, faire des femmes d'enfants, et ben dans un livre en fait qui s'appelle La Servante écarlate, hein, de Margaret Atwood. Alors le problème c'est que c'est une dystopie au départ quand même, hein, et le problème c'est que même elle dit ce qui l'inquiète c'est que la dystopie elle devient de moins en moins une dystopie. Et là c'est un petit peu inquiétant quand même. Et d'ailleurs, hein, comme Le Pen, père et fille, avant lui, il justifie ce besoin de natalité pour garantir notre système par répartition. Vas-y, continue de te foutre de notre gueule, Macron. C'est oublié quand même que la répartition, on choisit, hein, ce qu'on va prendre et pour redistribuer. Parce que oui, répartition ne veut pas dire qu'en fait, ça repose sur les enfants, les vieux reposent sur les enfants. Ça, c'est une idée de droite, en fait. La répartition, c'est l'idée qu'en fait, le travail doit permettre d'être rémunérateur et doit permettre, en fait, de mettre de côté de l'argent qui permet de faire tourner le système de sécurité sociale.
C'est quelque part, on prend sur tout l'argent qui est fait.
Bah, c'est ça. C'est donc faire le choix, en fait, de ne pas capter une part de la richesse créée pour la laisser aux mains des milliardaires, affaiblit bien plus le système de répartition que de ne pas faire d'enfants. C'est donc bien des choix politiques, hein, et pas autre chose. C'est un aveu clair, hein, d'ailleurs, de la part des deux Le Pen, hein, comme de Macron. L'État est là pour protéger les riches. Hein, vous avez quand même, hein, voilà, applaudissements. Alors, réarmer serait aussi faire en sorte que le travail rémunère plus. Ah oui, parce que ça, à chaque fois, il nous le fait. Quoi ? Macron va imposer une hausse des salaires ? Que nenni. Oui, je parle comme lui, avec des vieux mots.
Mais c'est en berlificoté.
Ouais.
Je ne sais pas, j'ai envie de le dire.
Non ! Il va encore offrir des cadeaux en diminuant les cotisations sociales et en diminuant l'impôt. En priorité, l'impôt des sociétés. Donc, bah, en gros, c'est la mort programmée du système par répartition et de la sécurité sociale. Donc, vous aurez compris, mesdames, qu'il faut faire des enfants pour sauver un système qu'on va tuer après. Mais bon, tout va bien.
Oui, mais je crois que vous n'avez pas retenu la leçon du ruissellement.
Non, mais c'est le « en même temps ».
Oui, en même temps, on fout à poil les pas plus riches, en même temps, on rhabille pour l'hiver les plus riches, et peut-être, sous l'action d'une force extérieure, ça ruissellera vers le bas.
Alors, on ne sait pas trop à quel moment.
On ne sait pas.
C'est pour ça, c'est le moment.
Oui, ça, c'est vrai qu'il n'a pas donné le délai. Hein. Ça peut peut-être se compter en dizaines, en centaines d'années, on ne sait pas.
Donc, dans le même discours et dans la même réponse quand même aux journalistes, on a un homme d'État, hein, Emmanuel Macron, président des Français, qui affirme d'un côté vouloir sauver un système tout en faisant faire des enfants et qui, de l'autre, nous explique qu'il va encore faire des cadeaux aux entreprises et affaiblir le même système. Donc, en fait, il se foutrait de notre gueule, il ferait comme ça. Mais c'est ce qu'il fait, en fait. Hein. Donc, il se fout totalement de notre gueule. Donc, je passe sur le reste, hein, qui, en général, est du même acabit, parce que je pas vous refaire tout le truc, mais je vous invite à aller la voir quand même. Oui, il faut toujours regarder ses ennemis, hein, par définition, je vous le conseille vraiment.
Qui plus est quand ils sont au pouvoir.
Bah, tu sais quand c'est le président. Quoi. Donc sur tous les thèmes, en fait, il rejoint l'extrême droite et la droite. En réalité, il n'y a aucun thème où il va à gauche ou même il oserait tenter un truc. Et même d'ailleurs, quand il commence à parler de choses comme la fin de vie, immédiatement, il se rattrape en disant « Ah mais attention, hein, on va quand même faire aussi les soins palliatifs et on va aussi devoir réfléchir au fait que est-ce qu'on fait la fin de vie comme ça ou autrement ou mieux. » C'est-à-dire qu'en fait, on tourne en rond depuis des années, mais on voit bien qu'en fait, bah, il parle en premier lieu à l'électorat de droite et d'extrême droite, et finalement à la France réactionnaire. Mmh. C'est ceux qui visaient clairement dans son moment télévisuel. Donc, par exemple, il nous parle de faire un congé parental mieux rémunéré et augmenter les allocations pour les femmes au foyer. Hein, c'est un très bel exemple. Sauf qu'en fait, ça... C'est une idée de l'extrême droite, parce que c'est une idée nataliste. Et c'est l'idée qu'en fait, si les gens ne font pas d'enfants, c'est juste que le congé parental, il n'est pas assez rémunéré et que les femmes au foyer, elles ne sont pas assez payées. Et c'est le programme du Front National depuis 1970.
C'est ce que j'allais dire, parce que j'ai vraiment le souvenir du Front National qui voulait verser presque un salaire.
Oui, un SMIC.
Aux femmes au foyer, etc.
Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'aide pour les. Voilà. Sauf qu'on sent bien quand même que le virage, il est plutôt à tendance de dire, mesdames, restez donc au foyer pour garder les gosses. Hein, voilà.
Oui, parce qu'il pourrait y avoir d'autres réponses. C'est-à-dire que j'ai lu un article justement d'un gars qui est, je ne sais plus ce qu'il est, démographe.
Ouais, démographe,
je crois, qui disait en fait, c'est pareil, en fait, ne vient jamais sur le tapis les places en crèche,
ben oui,
l'égalité salariale homme-femme, et tout alors, ça, quoi, en fait.
Faire des enfants quand on a fermé quasiment plus de la moitié des maternités en France aussi. Bon courage, hein. Je veux dire, ouais, vous voyez, c'est un peu le. Bon, bref. Donc, il y a aussi l'idée, alors, ça, c'est, vous savez, c'est toujours. À chaque fois qu'il y a un président qui veut faire un truc, il faut qu'il surcharge l'école. Et donc, lui, il est arrivé, il a dit, ouh, allez, on va faire des cours en plus, parce que c'est vrai que les élèves n'ont pas assez de cours. Hein. Je vous rappelle quand même qu'il y a un rapport qui est sorti qui vous rappelle, messieurs, dames qui avaient des enfants à l'école, qu'en moyenne, ils font 48 heures par semaine entre les cours et les devoirs. 48 heures, hein. C'est-à-dire que moi j'en fais 35, je trouve ça déjà beaucoup.
Beaucoup trop.
Beaucoup trop. Alors 48, pff. Donc voilà, donc du coup.
Ouais. Oui, mais ce qui fait qu'après arriver au travail à 35, voire même 39 heures,
on se repose.
Bah, ce sera presque des vacances pour les enfants.
Voilà, c'est
ils
bien.
Se diront, waouh, quelle chance d'être au travail.
Alors donc Macron, il s'est dit, tiens, je vais rajouter des cours de théâtre obligatoires et d'instruction civique. Alors je vais juste faire une parenthèse, quand on rend quelque chose obligatoire, on le rend inefficient, et ça tout le monde le dit, c'est-à-dire que c'est un peu comme la musique à l'école, vous voyez, le cours de musique est obligatoire, bah en fait, vous n'en gardez pas un très bon souvenir, parce que généralement, bah, on fait une espèce de truc qui nivelle tout par le bas, parce qu'il y a ceux qui savent faire de la musique, c'est ceux qui ne savent pas en faire, et puis, il y a ceux que ça intéresse et que ceux que ça n'intéresse pas, puis il faut tenir quand même une heure de cours par semaine, donc à un moment donné, on fait comme on peut, et c'est compliqué, et c'est difficile, et moi, je salue les professeurs qui font ça, parce que c'est sûrement l'exercice le plus compliqué qui soit, mais là, en fait, on a dit, bah, on va faire du théâtre. Alors moi, je tiens juste quand même à rappeler à Emmanuel Macron que mettre du théâtre obligatoire à l'école partout et comme il le dit pendant 4 ans, ça veut dire quand même qu'il y a des millions d'élèves qui vont faire du théâtre. Je crois pas qu'on ait encore des millions de profs de théâtre. Mmh. Voilà. Je pense qu'on va avoir comme un petit souci, c'est qui on va mettre en face. Donc si c'est pour faire du théâtre par le prof de sport, on va pas se marrer quand même. Hein, mais voilà. Mais c'est... Ouais.
Non mais écoute, tu sais, dans Startup Nation, il faut être
flexible,
tu vois. Qu'est-ce qui t'empêche de faire 2 heures cours de sport le matin, 3 heures de sciences nat l'après-midi, et pourquoi pas, je sais pas moi.
Si t'as 2 minutes, tu feras aussi de l'éducation civique, parce qu'ils viennent rajouter de l'instruction à l'éducation civique.
Eh ouais.
Et en fait, ce qui est terrible, c'est que dans son discours, il laisse encore une fois entendre que les enseignants aujourd'hui ne foutent rien, et qu'il faut encore charger la mule, parce que l'école telle qu'elle est aujourd'hui, elle est pas bien, puis alors je vous passe le fait qu'on veut remettre l'uniforme et compagnie. Donc on voit la Marseillaise et tout. Donc vraiment, quand j'entendais cette partie de la conférence de presse et du propos liminaire, je vous jure, j'entendais derrière voilà les informations de 1953. Voilà, non, vraiment, c'était impressionnant. Donc l'école au centre de la vie de tous les enfants, c'est ce qu'il a dit, c'est un projet, je vous le rappelle quand même, réactionnaire. Et oui, parce que contrairement à ce que vous croyez, en fait, depuis des années, on s'est battu pour que l'école, certes, est une place importante, mais qu'elle ne soit pas la seule place pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils doivent pouvoir aussi exister en tant qu'être vivant et ne pas être juste des réceptacles à savoir. Vous voyez, c'est un peu le truc pour reprendre des termes de gens qui avaient critiqué l'école à une époque. Donc, en fait, finalement, on voit bien que l'idée, c'est celui d'un État qui est là pour façonner et créer les bons petits soldats de demain. Et on revient donc, encore une fois, à la vieille école de la Troisième République. C'est pour ça que je m'amusais avec les petites voix. Donc, est-ce qu'on ne vivrait pas un petit moment, non pas de fascination, mais de fascisation, finalement ? Le fascisme, l'autoritarisme, l'autocratie, ça n'arrive jamais d'un coup dans un pays. Moi, je commence à en avoir marre des gens qui pensent qu'en fait, le fascisme, il s'installe d'un claquement de doigts. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. C'est toujours lent, ça prend toujours du temps. L'autocratie aussi, l'autoritarisme aussi. Ça se fait jamais comme ça du jour au lendemain. C'est surtout d'ailleurs en démocratie. Dans les démocraties, en général, il y a 15-20 ans avant que émerge réellement un pouvoir, disons, autoritaire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la démocratie, elle joue un jeu. Mais un jeu qu'on peut croire ou pas croire, mais un jeu de balancier, tout ça. Donc ça s'insinue doucement, mais sûrement. Pas après pas, moment politique après moment politique, et surtout loi après loi. Alors, juste, je vais faire un parallèle, et je ne suis pas en train de faire ce parallèle de façon pour dire Macron, c'est Pétain, parce que sinon on va me dire « Ouh là là, t'as pas le droit de dire ça ». Mais juste, en fait, se rappeler que le maréchal Pétain, il n'est pas arrivé du jour au lendemain à la tête de l'État. On lui a pas donné les pleins pouvoirs du jour au lendemain comme ça par hasard. Non, avant, il y a eu tout un tas de lois, tout un tas de restrictions, tout un tas de choses comme ça qui, en fait, sont venues entacher la démocratie, la liberté individuelle. Donc aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est un moment, finalement, de fascisation de la société française et du pouvoir en place. Il faut faire attention parce que la notion de fascisation ne veut pas dire que la société est fasciste. Mmh. Ça veut dire que la majorité des gens adhèrent à des idées proche du fascisme ou de l'autoritarisme. Et c'est ça que ça veut dire. Et en réalité, si vous discutez un petit peu autour de vous, vous allez voir que même des amis proches ou même de la famille, peuvent vous sortir des trucs qui parfois vous font tomber de votre chaise et vous dites merde, mais ils pensent vraiment ça? Et en fait, le problème, c'est qu'ils le pensent vraiment. Donc, ce que certains pudiquement veulent appeler une démocratie autoritaire, ou autre sobriquet, en fait, ça n'existe pas. C'est un moment où, en fait, l'autoritarisme s'installe. Mais si on regarde objectivement les choses, si on les regarde en face, si on note ce qui se passe ces derniers mois, comment ne pas voir, finalement, que tous les castors avaient tort? Oui, les castors, vous savez, oui, parce que vous aimez bien les castors, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Alors, je ne parle pas de l'animal, parce que j'adore les castors. Oui, vous savez, c'est ceux qui nous engueulaient, ceux qui ne voulaient pas aller voter et ne pas choisir entre Le Pen et Macron, qu'on accusait, ceux qui ne votaient pas, on disait « Ah, tu fais le jeu du Rassemblement National !» Alors, ces castors, donc, comme je l'ai dit, qui n'avaient donc pas compris une chose simple, c'est que le pouvoir, c'est le problème, en fait. Et quand on arrive au pouvoir, on n'a pas envie de le lâcher. Et que quand on y arrive, on veut tout faire pour le garder généralement. Moi, j'ai connu très peu de gens qui disaient « J'arrive au pouvoir, mais après, je m'en vais. » Oui, c'est... Voilà. Peut-être je ne suis pas assez vieux encore. Et quand un pays adhère de plus en plus aux thèses les plus réactionnaires, racistes, haineuses, ceux au pouvoir, et finalement, ils se plient à ce qu'ils pensent être les envies intrinsèques du peuple pour se garantir de se maintenir au pouvoir et de continuer. Vous voyez, c'est étonnant, mais ça fait des années qu'il y a des gens qui étudient ça, que ce soit des sociologues, des historiens, des penseurs anarchistes, tout ça, parce que c'est quand même chez les penseurs anarchistes que vous allez trouver le plus de critiques du pouvoir.
Et de l'État,
voilà. Et en fait, c'est pourtant ce qu'on voit aujourd'hui se réaliser sous nos yeux. En France, le pouvoir est tellement centralisé que finalement la bascule est assez simple entre un état ouvert et un état totalitaire. Soit, je dis pas qu'on est en état totalitaire, mais je vous dis, la bascule entre les deux peut se faire assez simplement, sans même que l'on s'en rende réellement compte, parce que ben, finalement le bon peuple, comme dirait Emmanuel Macron aussi, j'adore quand on emploie des mots comme ça, le bon peuple. Donc il y a un mauvais peuple, hein. Il y a le bon peuple et le mauvais peuple. Voilà. On s'en rend pas vraiment compte. Quand l'ensemble en fait des corps d'État sont aux mains d'une clique unifiée comme jamais, et comme c'est le cas aujourd'hui, parce que c'est ça hein, qui se passe aujourd'hui en fait, en réalité, ce que certains appellent la Macronie, mais qui n'ont en fait... il y avait aussi finalement avant il y avait la Sarkozy,
oui, la Chiraki,
avant il y a Chiraki. En fait c'est simplement que le chef de l'État finit par verrouiller, surtout quand il fait deux mandats, il finit par verrouiller tous les corps d'État et y placer tous les affidés qu'il peut avoir. Vas-y, si je t'ennuie t'as qu'à le dire, parce que maintenant Jean-Yves se met à bailler au micro, on s'en fout
partout.
Donc voilà, donc en fait on l'a entendu hein. Donc en fait, le pouvoir en place s'assure d'être tranquille hein, finalement, parce que c'est ça le but. Et là justement, tout le monde commence à nous dire le Conseil constitutionnel. Mais sauf que vous oubliez juste une chose, messieurs dames, le Conseil constitutionnel il a été remanié depuis deux mandats de Emmanuel Macron et il est majoritairement du côté de la Macronie aujourd'hui. Donc si vous attendez du Conseil constitutionnel le 25 une censure très très forte de la loi immigration. Attendez-vous à être déçu. Voilà, tout simplement. Ajoutez à cela le fait d'avoir fait monter une opinion caricaturale et braillarde, une opposition, pardon, caricaturale et braillarde. Oui, je le dis ici au micro, ça va vous déplaire, mais un Mélenchon, il est beaucoup plus pratique quand il braille dans tous les sens que quelqu'un qui aurait des idées posées et qui permettrait en fait d'avoir une contre-proposition politique. Mieux vaut quelqu'un qui fait de la polémique en permanence par tweet, hein, c'est-à-dire sur un réseau d'extrême droite, X, pardon, maintenant on dit, interposé, plutôt que quelqu'un qui peut poser clairement des alternatives, parce que ça, en fait, ça sert, parce qu'après, le pouvoir en place, lui, il passe pour le modérer. Voilà. Et donc, vous vous assurez de bien chauffer à blanc à chaque fois le braillard du coin, là, et puis comme ça, vous êtes content, parce que vous êtes assuré d'avoir encore plus de tranquillité, parce que le peuple qui a un peu peur, il se dit, ouh, le braillard, il ferait pas un gars qui pourrait nous aider vraiment. Il nous faut des gens qui tiennent la route, qui portent des blousons noirs, des manteaux noirs, et qui font la gueule sur les photos. Voilà. Alors, je vous le dis, ça m'amuse pas de faire ça parce qu'il va falloir faire dissidence. Et faire dissidence, en fait, eh ben, ça va être le plus dur, en fait, parce que ça va être de convaincre un nombre important de personnes, à faire dissidence, de refuser de continuer à alimenter le système politique et de s'emparer de leur vie pour collectivement se libérer des chaînes. Alors, ça paraît être, voilà, hein, mais sauf que je connais pas d'autres solutions. Je suis désolé, pardon, j'ai cherché, mais j'en connais pas d'autres. Bien entendu, hein, on sait à la causerie que ça va prendre du temps, qu'on va être sans doute emmerdé assez vite. Là, je le dis, hein. Moi, personnellement, et je pense que tous les membres de la causerie seront d'accord avec moi, qui ne voient pas une Rachida Dati couper les subventions des radios associatives comme les nôtres, par exemple, assez rapidement, au nom de l'économie qu'il va falloir faire, c'est-à-dire des fameux...
Du réalisme économique.
Et du réalisme économique et des 12 milliards qu'il va falloir trouver. Parce que oui, Radio Canut touche une subvention aujourd'hui qui date des années 80 et qui a été transformée par la précédente équipe de Macron et qui pourrait tout à fait maintenant être coupé très simplement par le ministère de comment elle s'appelle,
comment de la culture.
Agriculture. Je m'y fais pas. Voilà, pardon, c'était une blague. Et on sait en fait que l'image aussi ça joue un jeu important. Hein, Gabriel Attal, le jeune premier ministre ouvertement gay, ça donne une impression de modernité. Mais qui s'intéresse à son parcours ne peut que noter qu'il est de plus en plus sur des bases réactionnaires lui aussi, et que tout jeune qu'il soit et tout gay qu'il soit, eh ben en fait c'est une personne qui clairement porte une idéologie très à droite.
Oui, c'est un enfant de la balle. Hein.
Ouais, enfin,
je veux dire, c'est.
Parce que lui, il l'apprend au bon la balle.
Oui, oui. Enfin, je veux dire, okay. Je crois qu'il a fait l'école alsacienne. Oui. Il a fait plein de grandes écoles.
Ah oui, oui, c'est un pur produit.
C'est un pur produit de l'État et en même temps.
Et de l'élitisme d'État.
Et oui, c'est ça en fait quoi.
Alors, en fait, c'est un pur produit de l'élitisme d'État. C'est-à-dire que. Il est lui-même issu d'un milieu plutôt élitiste et il est lui-même maintenant. Voilà. Et. Encore une fois, et je le redis ici, je ne supporterai jamais à titre personnel qu'on l'attaque sur sa sexualité.
Ah non.
Ou autre. Par contre, ce n'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est forcément de gauche. Ah voilà, c'est aussi ça, faut se rappeler ça. Alors on va pas.
Oui, si au cas où les gens avaient oublié Philippot de l'extrême droite. Mais en fait, l'homosexualité n'est pas un paravent à idée de merde.
Voilà, exactement. Donc on va pas se dire que c'est facile, parce que c'est pas l'idée qu'on a aujourd'hui à la causerie. On ne va surtout pas se dire qu'il faut un claquement de doigts. Mais par contre, il faut surtout se dire entre nous qu'on n'est pas seul. Parce que non, en fait, tout le monde n'adhère pas à la haine et au repli. Donc il faut continuer quand même à faire des réseaux, se parler, continuer à penser qu'on n'est pas seul, parce que si vous commencez à vous dire que vous êtes seul, vous n'allez plus jamais pouvoir rien faire et ça va vous figer. Les mois, les années à venir vont être compliquées, rudes, comme d'autres avant, avant cela. Alors je fais une petite parenthèse, j'ai fait les 90 ans de ma grand-mère, vous en foutez complètement, mais c'est juste pour vous dire qu'elle m'a rappelé qu'elle a traversé une période qui s'appelait la Seconde Guerre mondiale, qu'elle a traversé tout ça, et comme elle m'a dit, bon ben... S'il faut y retourner, j'ai beaucoup aimé l'expression. Je ferme la parenthèse. C'est une façon de dire, pour elle, qu'il faut toujours résister, parce que c'était son point de vue. Quand elle disait retourner, c'était retourner à résister, c'était pas retourner à Pétain. Voilà. Mais du coup, c'est intéressant de voir que, bah oui, c'est les effets de balancier, l'histoire, on gagne pas à tous les coups, ça dure pas tout le temps, et voilà. Mais on peut collectivement quand même inverser la tendance, et si nous décidons en prime de cesser collectivement de courir après le pouvoir, de cesser d'attendre des chefs et autres leaders, et ben on fera grandir l'humanité. Moi, je vous le dis, vous n'avez pas besoin d'un gars qui braille et qui tweet pour vous représenter. Vous avez besoin de vous-même, voilà. Et c'est déjà pas mal, croyez-le. Ouais. Alors oui, le virage vers la réaction est bien
pensez-le.
Là. Pensez-le. Oui, plutôt que de le croire. Que des fois, je dis des conneries. Mais... Force de regarder Macron, je deviens
compliqué. J'hésite.
J'hésite. Alors oui, le virage vers la réaction, il est bien là. On va arrêter de se mentir. Il est clairement ici. Oui, nous traversons une période pas simple et plutôt sombre globalement, que ce soit à l'échelle française ou européenne. Simplement, ne cédons pas à une totale désespérance, sans quoi nous nous perdrons nous-mêmes. Et surtout, organisons-nous, parce que c'est ça le plus important et le plus urgent. Voilà.
Ouais, et en même temps, des fois, je me dis aussi, est-ce que tous ces pouvoirs autoritaires qu'on a en ce moment, qui sont déjà en place, ou qui ont ces envies d'autorité, etc., est-ce que finalement, on peut pas aussi des fois le prendre comme le symptôme d'une élite ou d'une bourgeoisie qui est plutôt un peu flippée, en fait?
Mais c'est ça.
Parce que quand même, on est, alors attention, on n'a pas de victoire derrière, je veux dire. Mais si on regarde les dernières années, que ça aille des ZAD à des mouvements même sociaux, même si effectivement, on pourrait toujours se dire, il devrait être beaucoup plus d'ampleur. Mais il y a une forme quand même de il y a certaines choses qui imprègnent dans une forme de militance, le côté un peu horizontal, dans une autogestion, ou en tout cas en essayant d'éviter les chefs, même si dans les partis politiques ils peuvent pas éviter les chefs, à croire que c'est né avec. Mais dans, on va dire dans des dans...
c'est né avec.
Oui, bah oui. mais c'est je me dis il y a des fois il y a quelque chose où je me dis, est-ce que tout ça aussi c'est pas un peu c'est une réaction à une société qui quand même par endroits avance. C'est-à-dire que
alors évidemment,
c'est ce balancier dont on parle régulièrement en fait, dans la causerie.
En fait, les périodes autoritaires, fascisantes, comme celles qu'on vit en ce moment, elles sont toujours en fait la résultante d'un moment de victoire sociale. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder un truc très bête. Vous regardez l'histoire assez objectivement. 1936, c'est les grandes victoires ouvrières, congés payés, début de la sécurité sociale. Oui, parce que la sécurité sociale, c'est pas juste l'après-guerre. Faites un peu d'histoire, ça m'agace. voilà. Je dis ça parce que justement là aussi on revient au parti politique, c'est le parti machin qui a inventé la sécurité sociale. Non, la sécurité sociale ça naît justement des grèves de 36, ça naît de gens très horizontaux justement. Et en fait on a derrière l'installation de formes fascistes. En Allemagne il y avait pays malmené économiquement exsangue parce que les vainqueurs de la première guerre mondiale l'ont complètement machin, et ce qui fait qu'en fait ça a facilité la montée, parce que quand vous ne faites que le travail soit pas rémunérateur, c'est facile, ça facilite en fait la montée des fascistes.
Parce que finalement, on monte le même pouvoir politique va trouver un ennemi.
Mais c'est ça.
Alors il change avec les époques ou pas d'ailleurs, mais effectivement, c'est. Oui.
Et en France, en fait, aujourd'hui, on est en train de jouer sur des peurs qui n'existent pas. Enfin, les démographes arrêtent pas de dire, mais c'est une connerie de dire qu'il y a de moins en moins de Français. C'est pas vrai, la population elle augmente. Alors elle augmente moins vite qu'à une époque, mais c'est pas dramatique. Je veux dire, on va arrêter, on n'a pas besoin d'être 90 millions en France. Enfin, je veux dire, voilà, on est 69 millions. millions, c'est déjà pas mal. Et en fait, il n'y a pas de perte de population, quoi. Mmh. C'est une connerie, c'est faux. De la même façon, il n'y a jamais eu aussi peu d'immigration en France. C'est-à-dire qu'on vous fait croire qu'il y a une vague migratoire énorme, qu'il y a des millions de personnes qui arrivent. Il n'y a jamais eu aussi peu d'entrées en France de personnes migrantes. Parce que pour deux raisons. La première, c'est que la France, c'est pas forcément le pays qui les intéresse le plus. Parce que des fois, ils parlent pas français, tout simplement, et que c'est plus facile d'être dans un pays anglophone ou en Allemagne, ou de, voilà, parce qu'il y a des turcophones, par exemple, les choses comme ça. Donc ça, c'est une réalité, sauf qu'en fait, on est dans une période où les mots font peur. Mmh. Donc en fait, on joue avec des peurs qui n'existent pas. Il n'y a pas de vague de submersion, c'est pas vrai. La seule vague qu'il y a aujourd'hui, c'est une vague de mort dans la Méditerranée, parce que des gens essayent de traverser dans des conditions terribles, et on n'arrive même pas à quantifier le nombre de morts réels. Ça, c'est une vraie vague, mais celle-là, elle devrait justement être combattue, mais parce qu'on ne doit pas laisser mourir des gens, point. Et en fait, il n'y a pas de vague d'immigration qui nous submerge. Et puis, il y a aussi des jeux. Il y a des jeux géopolitiques. On sait aujourd'hui que il y a aussi des puissances qui jouent sur d'autres puissances. C'est-à-dire la Russie qui va faire pression sur certaines choses au niveau européen. Ça a été le cas avec les punaises de lit, c'est le cas avec l'immigration. On sait, il y a des tas de journalistes qui ont démontré, journalistes d'investigation, qui ont démontré par exemple que, en fait, il y a un lien direct avec ce qu'on appelle des fermes à spam, des fermes à trolls qui sont en Russie et qui en fait diffusent à grandes eaux des peurs, des craintes, des choses comme ça. Ce sur quoi vont surfer l'extrême droite française parce que ça les arrange et qu'eux, ils ont envie d'être au pouvoir.
Et qu'en même temps...
Ils étaient assez proches.
Hein, non,
ouais. Mais en réalité, concrètement, si on regarde, la situation en France n'est pas si terrible que ça, en fait. Sauf que c'est le discours qui, lui, est alarmiste. Et en fait, oui, c'est un discours de protection des riches. C'est-à-dire que, concrètement, aujourd'hui, on crée, en fait, tout un tas de contre-feux qui ont des conséquences terribles sur des tas de populations, mais on crée des contre-feux qui, en fait, ne servent qu'à cacher la réalité, qui est qu'en fait, depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, et même avant lui, on a, en fait, une augmentation, et tu vas en parler, énorme, de la richesse dans les mains de quelques-uns, et on a, dans le même temps, un appauvrissement de la population qui est mesurable, c'est-à-dire qui est palpable. Et quand la population est appauvrie, eh ben soit en fait vous faites du vrai social et vous dites il faut augmenter les salaires, il faut que le travail soit réellement rémunérateur, c'est-à-dire que les salaires augmentent, soit vous faites des cadeaux au patronat et vous désignez des boucs émissaires. C'est la deuxième option, et la deuxième option va toujours vers de plus en plus d'autoritarisme et de fascisme.
Évidemment.
Voilà.
On passe à la ZIC.
Ouais.
L'alliance va tellement
funky.
Vina et Melka,
making funky.
L'esprit de l'alliance est
funky.
L'alliance va tellement
funky.
Vina et Melka,
making funky.
L'esprit de l'alliance est
funky.
Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. 1. Le monde moderne dissout les vraies valeurs. C'est 1. Là, il y a de quoi avoir le cœur. On mille, mille morceaux car les villes, villes au sud, Joe, sont touchées par le manque de respect. Oh.
Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove and you will move to this all night long. Once you learn, you start to grow. You grow, you start to know. Respect yourself, and the rest will flow.
Je veux du respect pour le bang bang. Boogie, hoogie, hoogie, haha. Respecte l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Le tag disparaît et le graphe ressurgit dans des galeries d'ART spécialisées. Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Paix, respect aussi à tous les funky de la planète. Mais quand je dis funky, pensez plus au comportement qu'à l'esthétique et tout le vent. Oui, le funky est un état d'esprit. Sachez que l'oriental number one, ouais, on fait partie. Je...
Magic in the mood. Find yourself inside the grooves. Music's what we really came here for.
Respect yourself, respect the funk. rassemblés ces années-là. Le respect touche aussi les DJ qui nous ont fait et nous font danser Oh, oh yes, it's good to be a king.
And yes, it's good to be a queen. Respect yourself and the rest will flow.
Le diamant voyage sur le sillon, en kilométrage illimité, et transmet le son. On l'a empêché piste au pays d'évoluer. Mais pire dans le domaine, nous sommes restés acharnés du respect du vinyle, tu le sais. La vie a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le rôle du vinyle. Je passe comme Dinas. Life's a bitch and then you die. Voilà.
De retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et si tu connais par cœur ce morceau, c'est que tu étais né en 1995 et
c'est
que tu l'écoutais. Et que tu as 40 ans et plus. Et si tu ne le connaissais pas, et ben il est temps que tu ailles découvrir Alliance Ethnique, qui était en duo avec Vinya Morica, Mujica, voilà, et avec le titre Respect.
Ouais, il n'y avait pas que les boys bands dans les années 90.
Non, il y avait aussi des très bons groupes de funk urbaine, comme on disait. J'aimais beaucoup. Oh, bah, c'est de la funk urbaine, tout ça. Donc voilà. Bref.
T'as c'était... une passion ce soir pour les voix à l'ancienne.
Ouais.
C'est le fait d'avoir vu ta grand-mère?
Non. Peut-être, je sais pas. Enfin bref, on sait plus.
Plonger dans les années 50.
Et,
wow.
Et ben justement, tiens, en parlant de plonger, plutôt que de plonger dans les années 50, si tu nous plongeais dans les méandres de la bourse.
Tout ouais, ça. Tout à fait. Vous savez que le début d'année, hein, bah, c'est souvent synonyme de bilan. Hein. On fait des bilans. Hein, voilà.
Calmement.
Oh là là, on fait le bilan calmement, t'as vu. Neg marron, si tu nous écoutes. Bref, attends. attends, puis je me reprenne.
T'avais qu'à pas me chercher.
Donc, le début d'année est toujours une période de bilan. Alors, j'avais envie de partager avec vous un bilan financier ce soir. Ouais, parce que j'adore la finance. Ouais. Pardon, je vais me reprendre, je vois le regard de Clara très sérieuse. Alors parce que si j'en crois le sinistre des finances, hein, il manque de la thune dans les caisses de l'État. Et il faut donc faire des économies, enfin vous comprenez rien. Et alors étant toujours moi hein, dans un esprit hyper proactif et volontaire, typique de la Startup Nation, bah, je pouvais pas m'empêcher de vouloir contribuer à la quête d'argent pour notre si cher et si bon et si protecteur État. Hein ? Alors évidemment, hein, j'aurais pu me laisser aller à une forme de facilité idéologique libérale en, au choix, bah, sucrant les droits des chômeurs et chômeuses, ou encore en augmentant la franchise médicale, enfin bon, il y a plein de choses. Hein. Mais bon, je suis pas libéral, je suis pas bourgeois non plus. Alors forcément, bah, sucrer du fric sur le dos de ceux et celles qui n'en ont pas des masses, voire pas du tout, bah, ça fait pas partie des options envisageables, hein, selon moi.
Alors, là, t'es moins Startup Nation.
Ben ouais, c'est ce que je me suis dit. Bah, ça, c'est là que je pense que le pouvoir politique bah, voudra pas de mes idées. Bon, tant pis, ou tant mieux d'ailleurs, hein, j'ai presque envie de dire. Mais je vais quand même donner une petite piste. Alors, piste qui se trouve, qui trouve sa raison d'être via le bilan que j'évoquais au début de ce long monologue. Mais je vous promets, là, je m'arrête. Donc, ce bilan. Alors, c'est le site d'actualité financière, Verniman.net, qui fait une étude tous les ans hein, sur les chiffres du CAC 40 et les dividendes qui sont versés aux actionnaires. Alors, je vous en ai hein, déjà parlé les années précédentes, et je trouve toujours intéressant quand même de voir, de constater bah, le pognon qui existe du côté des possédants, alors que dans le même temps, alors qu'en même temps, vous voyez, je suis hyper Startup Nation.
Ah, là, tu redeviens
je suis hyper
Startup
macroniste,
Nation.
En fait. Alors qu'en même temps, bah, les gouvernants trouvent toujours que nous, bah, les non-possédants, hein, les sans-dents, ou enfin vous nous appelez comme vous voulez, quoi.
Les pauvres.
Les pauvres, ouais. Ah ouais, c'est peut-être ça, en fait.
Tout simplement.
Ah ouais, c'est voilà. Ça, ouais, c'est ça, en fait.
Les gueux, pour tout ça.
On coûterait toujours trop cher, hein. Tout ce que nous, on a droit, c'est toujours trop. Bon.
Bah ouais.
Bah ouais, évidemment.
Bah ouais.
C'est quand même à se demander qui crée la richesse qui se trouve dans les mains et dans les poches des possédants.
Bah c'est pas eux.
Tiens. Peut-être une idée à approfondir. Et donc, que dit cette étude ? Alors, si déjà en 2022, hein, le CAC 40 et ses dividendes avaient battu des records, eh bien, on peut se dire que ça ne s'est pas arrêté en 2023.
On est les champions.
Ouais, j'ai pas prévu de musique, champions. Jingle ou autre, mais on aurait dû, quoi. Tu vois, c'est tellement waouh, on est dedans, quoi. Donc, en 2022, le record s'établissait à 80 milliards. Dont 56,5 de dividendes et 23,7 milliards en rachat d'actions. Hein, rachat d'actions, c'est une technique
qui font gonfler les
voilà,
actions et
ça,
qui du coup augmente le bénéfice net par action.
C'est ça.
Voilà. Donc en gros, ça va dans les poches des mêmes.
Oui, c'est ça. Hein, c'est, oui, le principe.
Le principe reste le même.
C'est un vase communicant, mais juste entre deux vases, quoi. Et c'est toujours les mêmes. Enfin bon, vous avez compris. Eh ben, en 2023. On ne parle plus de 80 milliards, ça c'est vraiment, oh là là, c'est tellement peu. On parle en 2023 de 97 milliards versés aux actionnaires, dont 67 milliards.
Même pas foutu de faire ça encore.
Ouais, ça viendra. dont 67 milliards hein, versés sous forme de dividendes et 30 milliards, on augmente un petit peu de chaque côté, hein, voire beaucoup de chaque côté, 30 milliards sous forme de rachat d'actions. Et le site d'info, là, justement économique, disait bah, c'est le niveau le plus haut jamais enregistré depuis que nous faisons cette étude.
Ah ouais.
Or, si même les économistes sont d'accord pour se dire là, vraiment, ça pète le plafond, bon, on peut se dire que ouais, là, ça pète le plafond, quoi. Hein. Donc là, quand même, en l'espace d'un an, on parle d'une hausse de 21%. Hein, c'est quand même pas mal. Et j'ai trouvé ce chiffre aussi, c'est en 20 ans, l'augmentation atteint les 350%, soit une multiplication par 4,5. Ce qui est quand même près de 10 fois plus vite, hein, plus rapide pardon, que l'indice des prix à la consommation, qui est de 38% d'augmentation sur les mêmes 20 ans.
Bah ouais.
C'est marrant.
Et t'as pas l'augmentation des salaires dans la même période ?
Ah ! Oh là là ! Pas tout en même temps, grand fou. Alors, pardon, c'est à moi dès que je parle d'économie, je suis vraiment joyeux, quoi. L'an dernier, il y a quand même trois groupes hein, qui ont distribué 37% de la somme totale. Alors, dans le mille, je vous le donne, Total Energy. Alors, vous remarquerez que eux, quand bah, aux gens d'en bas, ça coûte beaucoup d'argent de faire le plein. Et ben en même temps, ça remplit les poches de ceux qui ensuite bah, se remplissent les poches. C'est marrant, hein. C'est comme quoi le malheur des uns fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le bonheur des autres. Donc en deuxième, c'est BNP Paribas avec 9,7 milliards, on n'est pas loin des 10.
Et BNP, il y en a un peu plus, je vous laisse.
Ouais, c'est ça. Et la BNP ben, prend la place de Sanofi ouais. Hein, en deuxième, qui était deuxième en 2022. Et en troisième position, donc un de ces trois groupes qui distribuent 37% de la somme totale, et ben c'est LVMH, 7 milliards, c'est pas super ça. Et donc derrière, hein, c'est Stellantis, AXA. AXA, une formidable entreprise d'assurance. Vraiment, ils sont là, eux, ils ont le cœur sur la main, tu vois. C'est pas du tout pour faire du bénéf qu'ils sont là. Donc Stellantis, AXA et Sanofi viennent compléter le groupe qui permet de dépasser les 50% de la somme redistribuée.
Ça veut dire
donc
que
sur le CAC 40,
six sociétés font 50%.
Il y en a 6 qui font 50% de toute la thune. Et ils disent donc, Verniman.net, sur le site d'actu économique, là, dit au total, ces 26 groupes ont procédé à des rachats d'actions significatifs, au moins 100 millions d'euros en 2023, soit autant que l'an passé. Et ça, c'est une bonne info.
Oui.
Ouais.
En fait, non mais moi je vois par exemple mon portefeuille d'actions.
Ouais, moi aussi.
Non, ça, c'est pas crédible, donc j'essaie de faire. Non, par contre, là où c'est terrible, c'est qu'il faut quand même que. Je sais pas si les auditeurs et auditrices comprennent une chose, c'est que quand on rachète des actions, on n'investit pas. Donc en fait, on fait que racheter des actions pour monter le cours de l'action. Mais on n'investit pas dans l'outil, dans les salaires, dans tout ça.
Je ne l'ai pas mis dans mon sujet, mais ils ont augmenté les investissements. Mais à la rigueur, j'en ai presque rien à péter. Ils peuvent augmenter les investissements.
Oui, oui, non,
pour autant, pas donner autant dans les poches de ceux qui finalement ne font que ça.
Ce que je veux dire, c'est que là, on fait le choix non pas d'être dans l'innovation comme tout ce qu'on nous vend là. On fait plutôt le choix d'aller gaver des actionnaires.
Ah bah oui.
Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait.
C'est les gens qui prennent des risques, tu sais, les actionnaires.
Tu parles.
Alors, quand les dividendes ont augmenté de 350%, hein, comme je vous le disais là, il y a pas longtemps, il est quand même à noter et à retenir que les salaires dans le privé ont eux augmenté de, en 20 ans, attention, 13%. Faites un écart, 350% de dividendes en plus en 20 ans, 13% de salaire en 20 ans de plus. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un des deux groupes qui s'est vachement arnaqué. Je vous laisse deviner si c'est les salariés ou les actionnaires.
Bah moi je pense que c'est les actionnaires parce que non, on paye quand même beaucoup les salariés et du coup ça... Non pardon, excusez-moi, je me suis cru sur BFM Business.
Non mais c'est, enfin voilà, c'est, bref, n'oublions jamais hein, que du pognon il y en a mais à foison en fait, à foison, c'est beau ça.
Et après t'iras dire de moi.
Je suis trop macroniste. Bref, pardon, allez, on se reprend, il est tard. Bref, n'oublions pas hein, que du pognon, il y en a donc. Hein, et que si le chercher là où il est, c'est-à-dire dans les poches de ceux dont je viens de parler là, est un choix idéologique politique, que j'assume pleinement, là, j'assume pleinement qu'il faut aller prendre le pognon là où il est, bah, le chercher partout ailleurs que là où il s'en accumule par dizaines de milliards est aussi un choix politique que les politicards, par contre, ils ont beaucoup plus de mal à assumer. Hein, c'est-à-dire que ils annoncent toujours des propos d'urgence ou qu'il n'y aurait pas d'autre solution que de s'en prendre évidemment aux pauvres, de s'en prendre aux assurances type chômage ou que les réfugiés coûteraient de l'argent. Ils n'assument jamais leur point de vue idéologique, politique.
De protection des plus riches.
Bah, bien évidemment, en fait. En résumé, hein, c'est ce que je me disais, bah, c'est que les politicards, bah, ils n'ont pas d'autre idéaux finalement hein, que de prendre aux plus pauvres pour donner aux moins pauvres, mais sans jamais prendre aux plus riches, leurs amis de classe sociale. C'est quand même, il y a un truc, c'est quand même marrant. C'est-à-dire pour choyer un peu la classe moyenne, hein, cette soi-disant classe moyenne, on va prendre aux plus pauvres. Mais jamais on s'est dit, tiens, et si on prenait aux plus riches pour un peu tous les autres? Ben non, ça jamais, ils l'ont comme idée les politicards. C'est bizarre quand même. Hein.
J'ai rappelé juste un chiffre, parce que je trouve qu'on l'oublie. Il y a un rapport qui a été fait par Oxfam et qui est fait chaque année, vous savez, sur les 1%, 5%, 10% oui. Les plus riches. Hein, c'est... Alors, je rappellerai juste que dans le dernier rapport Oxfam, plus de 3/4 du personnel politique, c'est-à-dire des gens qui font de la politique, font partie des 1% les plus riches en France. Donc voilà.
C'est ça.
C'est donc voilà. des potes des autres. Donc,
c'est ça.
Et ça, en fait, non mais moi, c'est un truc qui me perturbe. Pas que ça, parce que je suis pas bête, je sais pourquoi. Mais c'est surtout qu'on continue à croire, par exemple, que bah, quelqu'un peut. Voilà, enfin, pardon, je te.
Non, mais.
Ouais, c'est que ça peut pas fonctionner, en fait.
Je te rejoins parce que je me disais, en définitive, en fait, hein, et ça, c'est un constat quand même, les politicards et l'État sont quand même là vachement pour maintenir la hiérarchie.
Hiérarchie sociale.
La hiérarchie sociale et l'ordre économique. Hein, qui s'entretiennent réciproquement et ils ne doivent leur existence finalement uniquement aussi grâce à une grosse partie de la population qui y croit
ouais.
et qui leur donne ce pouvoir d'exister en fait. Parce que si à un moment donné, vous, moi, nous, tous ceux qui sont seuls et tout ça, et ben on arrêtait de croire...
Tu fais du Grégoire.
Du Grégoire, ouais.
Deux fois en deux émissions, fois, ça ouais, suffit.
J'ai peur de moi-même. Je pense que je vais m'isoler dans une grotte. Pardon, je deviens macroniste et catholique d'extrême droite. Oh bordel! Et en même temps, je suis tellement lyonnais, quoi. Enfin, pardon. Allez, on se reprend.
C'est ça la civilisation. Pardon, excusez-nous. C'était pas lyonnais au départ.
Donc, non, du tout.
T'es enfin civilisé.
Je suis complètement lyonnais. Là. Waouh, c'est incroyable. Demain, je vais faire des petites géniflexions à Fourvière. Enfin bref, non, mais j'en rigole comme ça. Mais c'est encore une fois, il y a quand même toujours ce truc-là. Qu'on ne dise pas que la gauche, que machin. Bordel, regardez les 50 dernières années, mais même quand la gauche était au pouvoir, elle nous a chié quoi en fait. Alors ils vont nous dire.
Dessus.
Oui, en fait, alors ils vont nous sortir les 35 heures, ils vont nous sortir le mariage LGBT, enfin pour les personnes de même sexe, etc. Mais en soi, enfin, je veux dire, tout le reste, c'est quoi en fait? Du libéralisme, les lois El Khomri, etc.
Même les 35 heures. Hein. Même les 35 heures telles qu'elles ont été faites dans la loi Aubry 2, c'est la flexibilisation du monde du travail et ça n'a pas été hyper joyeux.
C'est pas assez pour nous, tu vois.
Ah ouais, je veux dire, voilà quoi.
Et qu'en fait, il est vraiment là quoi. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un truc qui est là quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas qu'on se remette individuellement et collectivement en question et de se dire, bah tiens, peut-être que si nos maîtres se croient forts ou en tout cas s'ils se sentent forts, c'est peut-être parce qu'on leur donne cette force-là,
bien
quoi, de se penser décideur de tout. Et qu'en fait, c'est aussi peut-être à un moment donné, c'est là où il faut peut-être faire justement pas cessation de paiement, mais vous voyez.
Dissidence.
Fait, ça rejoint ce que tu disais avant. Oui. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment. Et ça ne veut pas dire qu'on va basculer dans une société de violence, je ne sais pas quoi, parce qu'en même temps, la société de violence,
elle
je pense qu'on
hein.
la connaît déjà, ouais, en fait, quoi. C'est donc vraiment, il y a, quand je vois ces résultats et que j'entends les politicards qui passent à la télé et que bon, quand même aussi au niveau des journalistes, il n'y en a pas beaucoup qui sont là pour apporter une contradiction. Enfin, il y a quand même des chiffres, on les a là en fait, du fric qu'il y en a, de la richesse produite qu'il y en a en fait. Et là, je veux dire, quand on prend ce genre de repères là, enfin, on peut juste avoir une critique du capitalisme en fait, quoi.
On parle même pas de l'abattre. Hein,
mais oui, c'est ça, c'est ça que je veux dire.
On pourrait, hein, mais là, à l'occurrence.
Moi, en tout cas, c'est ce que j'espère. Mais les journalistes ou autres qui peuvent interviewer, ils pourraient au moins s'appuyer sur ce genre de chiffres-là pour se dire, bah attendez, il y a quand même. On voit bien qu'il y a une répartition des richesses qui est de moins en moins juste, si un jour elle a été, etc.
C'est totalement inéquitable en réalité.
Et en fait, bah non, il n'y a rien quoi. Bah peut-être que, et là je ne vais pas vous dire que tous les médias sont des menteurs ou je ne sais pas quoi, j'aime pas ça du tout. C'est juste, faites-vous vos propres idées, ayez de l'esprit critique, et que en fait des milliards, ce sont des milliards, et que si on veut les laisser dans les mains des actionnaires, c'est un choix politique.
Bien
on
sûr.
Pourrait bien se dire que c'est pour l'ensemble de la population, on répartit ça, pour ceux qui en ont pas du tout, pour ceux qui en ont un peu moins, qui en ont un peu plus, et qu'on puisse tous bien vivre, en fait.
Ah oui.
Quoi.
Moi, quand j'entends Bruno Le Maire dire qu'il manque 12 milliards, bah, tu l'as démontré, il y a une augmentation de
plus de 12 milliards.
Donc il suffit d'aller taper là-dedans et de dire, bah, écoutez, excusez-moi.
C'est bon, on a résolu le problème, en fait.
Parce que vous serez aussi riche que l'année d'avant. Après, tous les salariés, ils n'ont pas été augmentés, donc pourquoi pas vous?
C'est ça, on a pris 13% de salaire en plus en 20 ans, donc
oui,
tu fais le calcul,
voilà.
C'est même pas 1% par an. Quoi.
Et puis la deuxième chose, c'est que tu parlais justement des riches, tout ça. Moi, je suis toujours surpris aujourd'hui et ça m'interroge, ça m'interpelle de voir finalement qu'une Marine Le Pen n'est pas vue comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une héritière, parce
c'est
qu'elle
ça.
Est, c'est une héritière
oui.
d'une énorme fortune, et qu'en fait on continue à nous dire c'est une femme du peuple, quoi. Et je veux dire non, c'est pas du tout une femme
non.
du peuple, c'est une héritière, c'est quelqu'un qui en fait a aussi énormément, elle l'a pas caché, d'argent placé en bourse, donc qui fait partie de ses actionnaires qui touchent oui. les dividendes. Donc en fait, en réalité, quand les gens la voient comme une espèce de porte de sortie possible à leur problème, non, ce sera la même chose, vu qu'elle fait partie de ce petit cercle restreint de gens qui n'ont pas envie.
Ah oui, et puis ben là, je pense qu'il y a aussi une forme de lâcheté politique et philosophique de la population, en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de se dire, tiens, je délègue, on va s'en prendre aux pauvres, aux réfugiés, aux musulmans, etc., que de se dire, bah, tiens, on va les retourner, on va tout retourner ce système pour que majoritairement, on puisse bien vivre, en fait, collectivement, etc. Ben, en fait, il y a aussi de la lâcheté de la part des gens. Et ça, je sais pas comment on va le résoudre, mais c'est une des facettes du problème du monde dans lequel on vit, quoi. C'est-à-dire que s'il y avait personne qui voulait jouer au jeu, bah, ils joueraient pas au jeu, quoi.
Merci pour cette phrase finale.
Ouais, elle était vide.
Non, c'était
non, ok.
Si personne voulait jouer au jeu, ils joueraient pas au jeu.
Ben oui.
C'est parfait.
Ok, c'est un peu naze.
Non.
Bon, allez,
non.
On passe à la musique.
Allez, musique. My sticky, go, fuck.
T'écoutes toujours la causerie, c'est toujours Radio Canu et je m'entends très fort dans le casque parce
et
que
fuck the king.
Oui, et je voulais juste dire, j'ai pompé le titre sur une plateforme d'écoute hein, parce que l'album n'est pas encore sorti et dans la chanson il dit clairement fuck the king, ok. Donc je voulais juste
remettre les pendules à l'heure et Big Ben à l'heure.
Remettre les pendules à l'heure, tout à fait. Et ben on arrive au bout de cette émission qui fut laborieuse mais plaisante, on l'espère pour vous aussi. Et il est l'heure de rappeler quelques petites infos pour nous joindre.
Et ben pour nous joindre, c'est lacausericanu@gmail.com, lacausericanu@gmail.com. Et donc bah tu peux nous écrire si tu veux nous parler, si tu veux nous dire si t'as aimé l'émission, si tu veux venir dans l'émission, si tu veux nous proposer des trucs, si t'es un artiste, si t'es quelqu'un qui crée des choses, si t'as des choses à dire et que c'est compatible avec ce qu'on a envie de raconter, ben on sera avec plaisir qu'on fera une émission ensemble. Et sinon, tu peux aussi nous retrouver sur les blogs de Radio Canu à blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie où tu tapes la causerie Radio Canu, tu vas tomber dessus. Voilà. Et sinon, tu nous retrouves sur toutes les plateformes de balado, discussion, podcast. Et oui.
Non, vas-y, va au bout.
Et donc, en fait, du coup, là, tu tapes la causerie Canu.
Et je viens de réaliser que j'ai rétabli la vérité, j'ai remis les pendules à l'heure, j'ai mis les points sur les i, mais je n'ai pas dit qui chantait.
Ah oui, tout à fait.
C'était The Idols, ouais. Évidemment, bah oui. Avec le titre Gift Horse. Et c'est un extrait de leur tout prochain album qui devrait venir et qui devrait être axé sur l'amour, parce que l'amour, c'est la clé.
D'où le fuck the king.
Ah oui, il faut se débarrasser des maîtres.
Et oui, et donc voilà. Et donc, du coup, bah donc voilà. Et tu nous retrouves sur les podcasts. Et sinon, et bah, tu peux aussi nous retrouver sur un réseau socio-commercial appelé Facebook. Mais inutile de trop parler avec nous là-dessus parce qu'en fait, on lit pas trop ce qui est sur Facebook. Mais par contre, ça nous sert, on va pas le cacher, à diffuser. Et merci à celles et à ceux qui diffusent oui, aussi l'émission sur d'autres réseaux comme Mastodon, comme Threads, comme voilà, j'ai vu que ça se baladait un peu partout. Et bah, ça fait plaisir. Donc, merci. Parce que
merci.
C'est pas nous et que c'est sympa de nous.
C'est grâce à vous qu'on mangera le monde. Enfin.
Voilà. Oh, par contre, on va pas faire de bref parce que
il est déjà tard.
Donc, on vous invite à aller sur, par exemple, rebellion.info ou sur d'autres sites d'info pour voir ce qui se passe un petit peu autour de chez vous et à Lyon. Il y a juste un truc, c'est le festival des conférences gesticulées qui redémarre. Donc, allez-y, il y a un super gros programme et c'est super intéressant. Donc, allez y jeter un œil. Il y aura sûrement des nouvelles manifestations contre la loi immigration. Et donc, là, pareil, et ben, allez essayer de vous tenir informés. Voilà.
Yep. Eh bien, on va se quitter en musique avec. Je sais pas, là, je te jure, il y a des intonations, il y a des mots comme ça me fait penser à ça.
Je rappelle que cet homme est de l'Est, hein, au départ. Oui. Pas du tout du Sud.
Je ne sais pas.
Je sais plus d'où il est, en fait.
Je sais plus, je suis perdu. Bah, qui suis-je, où suis-je? Ou quelle étagère? Alors. Allez, on va se quitter dans une musicalité très cool avec le groupe.
Pardon, c'est la blague la plus nulle que t'as faite à l'antenne. Celle-là, mais vraiment, je suis désolé.
Qu'est-ce
mais
que j'ai dit?
Dans quelle étagère?
Ah non, mais c'est. On va pas tout étaler, mais c'est souvent ce que Clara me répète quand je dis ça. Je t'ai grillé. Allez, on arrête, on se reprend. On va se quitter en musique avec Novo Amor et le titre Land is where I land. Et juste au cas où, dans ce groupe-là, Novo Amor, il y a une voix peut-être que vous reconnaîtrez. C'est Ed Tullett qui fait aussi partie du duo Lissom avec Julien Marshall, dont je vous en ai parlé, c'est passé pas mal. Et bien là, c'est l'autre groupe, c'est Novo Amor. Land where I land.
Et c'est bien.
Et on vous dit à la semaine prochaine, dimanche 22h sur l'antenne de Radio Canu. D'ici là, portez-vous bien.
Et on vous fait des bisous.
C'est ça, des bisous. Ciao.
Ciao.
Your direction of Christ tag on your hip.